De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Une course contre la montre pour la sauvegarde de l'océan. À l'occasion du Vendée Globe et dans un contexte où l'océan est reconnu comme étant l'avenir de la Terre, un journaliste navigateur, un acteur directeur de théâtre, une eurodéputée navigatrice mettent leurs talents au service de la Grande Bleue. Car l'océan est l'enjeu géostratégique du siècle. Au-delà des ressources alimentaires, médicales et minières, il est source d'énergie renouvelable et accueille notamment 90% du transport des marchandises, d'où une prise de conscience de sa nécessaire préservation. Avec nous, en liaison téléphonique, Catherine Chabot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes navigatrice, journaliste, première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire, sans escale, mais vous êtes aussi à terre, une femme active, engagée en faveur des océans. Je précise que vous avez été membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, ancienne déléguée à la mer et au littoral de 2016 à 2017, et aujourd'hui eurodéputée. Avec vous dans cette première partie d'émission, et toujours en distanciel bien sûr, Fabrice Amedeo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et navigateur, vous avez traversé 15 fois l'Atlantique, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ du Vendée Globe, le deuxième pour vous. Seule course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc vous êtes, on l'imagine bien, en ce moment au Sable d'Olonne. Et donc c'est l'occasion de sensibiliser à la préservation des mers et océans. Et vous êtes aussi auteur du livre « Loin de la Terre surgit le monde », livre magnifique paru chez Plon, et d'un cahier aussi pédagogique intitulé « Cétacé, l'océan ». En bois l'eau, un cahier, on en parlera, destiné aux élèves des classes de CM1 et jusqu'à la 5e. Et puis en seconde partie d'émission, c'est l'acteur et metteur en scène Charles Berling qui nous rejoindra. Il est directeur du théâtre Liberté à Toulon, et puis dans une théma Passion Bleue, eh bien il a choisi depuis septembre d'inviter la mer au théâtre et de s'entourer d'une troupe aux talents variés pour sensibiliser le public à ce berceau de l'humanité qu'est l'océan. Enfin, le journaliste Stéphane Foucard sera l'œil du monde planète dans son choix info de la semaine. Eh bien, il nous parlera d'une nouvelle étude sur des pesticides. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, en direct, préparé par Anaï Morales, avec nos complices fidèles Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir Edouard Rubinstein. Le Vendée Globe, une belle opportunité pour croiser les regards sur les enjeux liés à l'océan et aux hommes, une édition 2020 sous le signe, elle aussi, de la pandémie.
Au Vendée Globe, à l'ère de la Covid, c'est un public tenu à distance des bateaux, ce sont aussi ses concurrents, tous masqués.
C'est plus compliqué de se rendre compte des sourires ou des visages des gens.
Mais ce qui les inquiète avant même d'affronter les tempêtes, c'est l'ultime test PCR le 6 novembre, deux jours avant le grand départ, source d'angoisse pour beaucoup, comme l'Italien Giancarlo Pedotti qui part pour son premier tour du monde.
Oui, ça me perturbe, bien évidemment, ça m'inquiète. Après, c'est une chose que je peux contrôler jusqu'à un certain limite. Bah, moi, je pense que pour faire simple, j'avais les frigos pleins à 15 jours de départ de la course. Une semaine avant, je m'enfermerai dans ma petite maisonnette.
S'isoler pour éviter les contacts et ruiner un rêve, car la règle est claire, un test positif et le concurrent reste à quai. Jacques Carès est le directeur de la course.
La ligne est ouverte 10 jours après le départ, pour des raisons médicales aussi. Quelqu'un qui malheureusement serait positif la veille du départ ne part pas. Par contre, il sera dans l'obligation d'avoir un second test quelques jours après. Ça, c'est le médecin de course qui prendra la décision. Si effectivement le test se révèle négatif quelques jours après, la possibilité de le faire repartir dans le délai des 10 jours.
C'était un reportage de Jérôme Val diffusé sur France Info le 25 octobre dernier, le Vendée Globe. Une course à part qui vous lie tous les deux, Catherine Chabot, Fabrice Amedeo, le Saint Graal des marins, mais dont le départ cette année sera donné, on peut dire, à huis clos en raison du confinement. Dimanche prochain, 8 novembre, Fabrice Amedeo, je me tourne tout de suite vers vous, à 5 jours du départ, et dans ce contexte spécifique, comment est-ce que vous vous sentez ?
Eh bien écoutez, paradoxalement, je me sens très bien, puisque le fait d'être confiné, comme le reste de la France, mais finalement, on le sait depuis assez longtemps qu'on va être confiné une semaine avant le départ, ça permet d'être un peu dans sa bulle, hein, de préparer sa course, de se concentrer, de se reposer, de passer quelques derniers instants en famille, de regarder la météo et finalement d'échapper à toutes les sollicitations très agréables, mais très fatigantes d'un départ de Vendée Globe avec la foule, les sollicitations médiatiques, toutes ces choses-là. Et donc du coup, je me sens très très bien, voilà.
Eh bien, il faut rappeler pour nos auditeurs qu'il y a 4 ans, vous aviez fini 11e en 103 jours pour votre premier Vendée Globe, ce qui était formidable, hein, beaucoup ne finissent pas.
Oui, en fait, ce qui était surtout formidable, c'était de réussir à boucler un Vendée Globe 16 mois après avoir quitté la rédaction du Figaro. J'étais journaliste depuis 12 ans. Donc moi, j'étais pas un marin du sérail, hein, donc j'ai toujours été passionné par l'océan, mais je suis arrivé à la voile professionnelle sur le tard. Et donc, ce qui était absolument magique, c'était de terminer ce Vendée Globe. Après 103 jours, c'est une très belle expérience, c'est long. J'avais un bateau qui me permettait d'ambitionner de faire un temps bien inférieur en dessous de la planète, mais j'ai eu quelques déboires techniques. Mais voilà, et donc cette année, je pars avec l'ambition, bien sûr, de faire mieux et puis de porter plein de belles valeurs autour de la préservation des océans. J'imagine qu'on va en parler.
Largement, effectivement. Je précise quand même pour nos auditeurs que même si vous dites que vous y êtes venu sur le tard, quand même dès l'âge de 3 ans, vous découvrez la voile avec votre père et que vous avez quand même baigné aussi dans cet univers-là, tout petit.
Oui, non, bien sûr. Moi, j'ai fait de la voile depuis que je suis enfant, de la régate depuis l'adolescence. Donc, j'ai vraiment l'impression de grandir sur un bateau. Et l'océan a toujours fait partie de ma vie. Et j'ai toujours senti cet appel du large et cette envie de naviguer depuis que je suis enfant. En revanche, pendant que je passais mes journées à la rédaction du Figaro en région parisienne, j'avais des concurrents qui naviguaient déjà de 200 jours par an. Et donc, comme vous l'avez dit, le Vendée Globe, c'est quand même un Everest. Hein, c'est le Graal pour un marin. C'est très difficile. Et donc, moi, je l'ai préparé en 16 mois, ce Vendée Globe. J'avais jamais navigué sur un IMOCA, donc ces bateaux de 60 pieds qui nous permettent sur lesquels on fait le tour du monde. Et donc du coup, en 16 mois, j'ai dû tout apprendre finalement, apprendre à naviguer sur ces bateaux, apprendre à réparer ce qui pouvait casser, apprendre à me réparer, c'est-à-dire les formations médicales, faire la formation météo. Enfin, c'est finalement tout cet apprentissage accéléré que j'ai eu en 16 mois. Pour moi, c'est ça la grande victoire, c'est d'avoir terminé ce premier Vendée Globe.
Alors cette immensité, Fabrice Amédée, le grand large, on sent que c'est un monde à part. Vous nous le décrivez très bien, de façon magnifique, hein, dans le livre Loin de la Terre surgit le monde. Et on comprend qu'il y a beaucoup de choses aussi et de quêtes. Par exemple, vous écrivez que le large est l'expérience du plein par opposition au vide de notre société urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sentiment-là ?
Oui, je vois très bien le passage auquel vous faites allusion. En fait, c'est à l'arrivée du dernier Vendée Globe. Il y a une personne anonyme, parce qu'à l'arrivée d'un Vendée Globe, on voit beaucoup de monde, qui m'a dit « Je sais pas comment tu fais pour être au large, loin là-bas. Moi, j'aurais peur du vide. » Et en fait, ça m'avait marqué ce que m'avait dit cette personne, parce que je m'étais dit, mais en fait, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que le large, c'est pas du tout l'expérience du vide, c'est l'expérience du plein. C'est ces couchers de soleil magnifiques, c'est cette sensation de se reconnecter à la nature et à finalement au rythme du cosmos. Là où finalement notre société nous donne une impression de connexion avec les réseaux sociaux, avec les moyens téléphoniques, toutes les technologies contemporaines. On a l'impression d'être toujours connecté, mais en fait on est connecté à pas grand chose ou en tout cas pas à l'essentiel. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Et finalement, moi aujourd'hui, l'océan, c'est à la fois une quête sportive, parce que je suis toujours en quête de nouveaux horizons et en quête de dépassement de soi, mais c'est aussi une quête personnelle très forte, avec l'impression de déconnecter avec le monde des terriens pour aller chercher cette reconnexion à l'essentiel.
Oui, c'est pour ça que dans votre livre, vous nous parlez largement de la déconnexion massive des humains avec la nature, du fait de l'accélération de nos vies, de la globalisation, de la marchandisation. Voilà, pour reprendre vos mots, Fabrice Amédée, je me tourne vers Catherine Chabot. Catherine Chabot, seule sur l'océan, on se sent relié au monde, visiblement. On peut quand même souligner que depuis le dernier rapport du GIEC en 2019, l'océan est apparu plus largement dans les négociations climatiques et politiques, donc c'est peut-être un bon signe. À quel moment est-ce que vous avez réalisé sur cet océan qu'il était en danger ?
Écoutez, d'abord, j'ai envie d'évoquer aussi cette expérience, avant de répondre à votre question, absolument formidable que nous offre la mer, c'est d'avoir l'impression de vivre au rythme de la planète. C'est exactement ce que disait Fabrice. Parce qu'on vit au rythme, non pas du temps qu'il est, mais du temps qu'il fait. On vit au rythme des dépressions, des anticyclones, et véritablement cette impression de vivre avec le pouls de la Terre. Et c'est un sentiment qui est vraiment très profond. Pour répondre à votre question maintenant, je pense que d'abord, jeune, enfin enfant, moi j'ai commencé par la plongée sous-marine et j'ai compris, sans doute sans m'en rendre compte, hein, que la mer était d'abord riche, qu'elle était vivante, parce que mon père nous a initié très tôt à la plongée sous-marine et je voyais que ça grouillait de vie. C'est lors de ma première traversée de l'Atlantique en solitaire en 91, c'est la Mini Transat, les déchets que je voyais déjà sur les plages ou que je voyais en plongée sur le littoral, d'en apercevoir, d'en voir quasiment quotidiennement en plein milieu de l'Atlantique pendant cette transat, je me suis pris vraiment une grande claque parce que je me suis dit mais c'est pas possible, si alors qu'on est à 1000 milles de toute terre habitée, ces déchets sont ici. Alors depuis, je sais qu'il n'y a que 1% en surface et que la grande majorité sont dans les profondeurs. Alors oui, c'est par les déchets, mais aussi par la relation entre l'océan et le climat que l'océan est monté sur la scène internationale et dans les grandes conférences internationales sur l'océan, sur le climat, sur la biodiversité, mais pas du tout au rythme, en tous les cas à l'échelle des enjeux, parce que l'océan, c'est quand même la moitié de l'oxygène que l'on respire, il absorbe un quart de nos émissions de CO2, et il a fallu, mais c'est complètement fou d'y penser aujourd'hui, quand en 2015, avec la plateforme Océan et Climat que nous venions de créer, nous avons réussi à faire rentrer le mot océan dans le préambule de l'accord de Paris. On a crié victoire, c'est quand même un peu dérisoire, à une époque où les négociations climatiques étaient considérées comme des négociations surtout économiques. On me disait mais l'océan n'a rien à faire là. Ben, si, l'océan, on a besoin de restaurer les écosystèmes marins et côtiers autant qu'on a besoin de restaurer la forêt à terre ou de réduire les émissions de CO2 de l'agriculture, etc.
Après, il faut remarquer que, par exemple, au niveau européen, l'océan est partagé entre, ou éparpillé, on peut dire, entre plusieurs commissions, je crois, hein, développement, environnement, pêche. Donc, la mer souffre encore d'être un peu éparpillée dans certaines enceintes.
Oui, ça, c'est la vraie problématique de la mer. C'est-à-dire qu'on parle de la mer et on vient enfin d'avoir un ministre de la mer et je m'en réjouis. Mais parce que la mer, c'est aussi bien de la connaissance, c'est de l'énergie, c'est du transport maritime, c'est des poissons, c'est donc de la ressource alimentaire, c'est bientôt des minerais qu'on va aller chercher dans les grands fonds, ce sont des ressources génétiques. Et du coup, toutes ces données-là sont réparties au niveau national dans différents ministères. Et quand j'étais déléguée ministérielle, j'avais au sein du ministère de l'écologie à essayer de faire la liaison entre toutes ces thématiques. Et au niveau de la Commission européenne et même du Parlement européen, eh bien, on parle de pêche dans une commission pêche, on parle de biodiversité dans une commission environnement, on parle d'énergie ou de transport encore dans deux autres, et de recherche encore dans une troisième ou une quatrième. Donc aujourd'hui, on a beau avoir une politique maritime intégrée en Europe depuis 2007, la réalité c'est qu'elle ne l'est pas complètement, même si, là aussi, quand même, quand on regarde dans le rétroviseur,
il y a des avancées.
Des avancées. Encore une fois, pas au rythme des enjeux. Oui. Et moi, je dépense un peu d'énergie. Je ne suis pas la seule à faire prendre conscience que l'Europe doit se retourner vers la mer.
Alors Fabrice Amédéo, on comprend que dans ce Vendée Globe, vécu aussi par Catherine Chabot, hein, bien évidemment, dans ce Vendée Globe, il y a aussi maintenant des prises de conscience, des prises de parole, des actions, et vous faites partie de ces alerteurs, on peut dire. Hein. Parlez-nous de votre bateau. Pour quelles raisons est-ce que vous avez choisi de destiner votre bateau aussi à servir la science ?
Alors en fait, moi, ma prise de conscience que les océans se dégradent, elle est assez tardive, parce que longtemps, j'ai eu une vision assez romantique de mon parcours de marin. J'avais l'impression de quitter la terre et la pollution des hommes pour aller traverser de grandes étendues immaculées. Parce que même si on voit, Catherine le rappelait, régulièrement au large des déchets, la plupart, elle le disait aussi, sont invisibles. Et donc du coup, on peut vivre un peu dans cette forme d'illusion, et c'était mon cas. Et j'étais tardivement pris conscience de l'urgence de faire quelque chose. Ça correspondait avec l'arrivée de mon dernier Vendée Globe. où, comme je le disais précédemment, en fait, j'avais été journaliste pendant 12 ans. Là, j'avais encore la possibilité de retourner à mon métier d'avant, de journaliste. Et il fallait que je fasse un choix et j'ai décidé à ce moment-là de me lancer complètement dans la voile professionnelle. Et je me suis dit assez rapidement, mais quel sens t'as envie de donner à ton parcours de marin? Quel souffle t'as envie de donner à ton projet? Quel père aussi tu as envie d'être? Parce que j'ai trois jeunes enfants à la maison et à leur génération, ils sont très sensibles à ces sujets et à cette menace globale pour notre planète. Et donc j'ai commencé à discuter avec des marins et j'ai entendu parler de ces capteurs qui permettent de mesurer ces différents éléments de l'océan. Et donc du coup je me suis dit ben allons-y. Et donc j'ai équipé mon bateau de deux capteurs océanographiques qui sont suivis par toute une communauté scientifique. Donc en France et en Allemagne notamment. Et en France on peut citer l'IFREMER.
Oui, en Allemagne l'Institut Max Planck quand même qui est connu aussi.
Exactement.
Géomar. Ouais. Il y a beaucoup de grandes institutions qui vous suivent. L'Université de Bordeaux, l'IRD, effectivement des scientifiques qui attendent beaucoup visiblement des résultats, en tout cas des résultats donc sur la teneur en CO2, le niveau de salinité de l'eau, la présence des phytoplanctons, la température en surface. C'est-à-dire comment vous allez faire, parce que on imagine que quand on prend la course du Vendée Globe, il y a aussi la performance sportive, mais on sent que vous êtes prêt à risquer de perdre un peu de cette performance pour les enjeux scientifiques.
Alors déjà, moi, de par mon profil, je suis un projet outsider. Je suis pas un projet favori pour le Vendée Globe. Donc déjà, de toute façon, a priori, le podium n'est pas pour moi, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe sur l'océan. Mais disons qu'a priori, je suis plutôt un projet outsider, et donc j'ai plutôt envie de porter des valeurs que me battre coûte que coûte pour la victoire. Et donc du coup, en effet, ces capteurs, ça a un certain impact au niveau de la performance. Ça pèse les capteurs plus les filtres microplastiques une centaine de kilos. C'est très énergivore, donc il a fallu installer une éolienne en plus, penser voilà comment produire plus d'énergie, hein, 30% d'énergie en plus sur un tour du monde.
Il y a des panneaux solaires aussi, des hydrogénérateurs. Vous êtes très énergie renouvelable.
Tout le monde en a. Oui. Oui, par contre, c'est très énergie renouvelable. Après, l'honnêteté m'impose de dire qu'on a quand même un moteur encore thermique à bord. Oui. La plupart des marins ont encore ces moteurs-là, avec un peu de gasoil, mais on essaie de l'utiliser le moins possible. Après, sur un tour du monde, avoir 100 litres, hein, c'est-à-dire deux gros pleins d'essence, ça change pas énormément pour notre planète. Mais je pense qu'après, la notion d'image et d'exemplarité est hyper importante. Et donc, moi, j'essaie d'utiliser le moins possible cette ressource d'énergie.
Donc, idéalement, vous allez faire des prélèvements chaque jour?
Alors en fait, les deux capteurs, ils fonctionnent 24 heures sur 24. Il y a un premier capteur qui mesure CO2, salinité, température en surface. Donc lui, c'est de la data pure. Donc il y a de l'eau qui rentre dans le capteur et qui ressort avec des modules qui analysent et qui, en temps réel, donnent finalement les teneurs de ces différentes data. Et ensuite, je peux les envoyer toutes les semaines ou tous les 10 jours avec mon téléphone satellite à terre et à la communauté scientifique qui suit mon bateau. Ensuite, j'ai un deuxième capteur qui est un capteur de microplastique où là, il y a des filtres. Et lui aussi tourne 24 heures sur 24. Et toutes les 24 heures, je dois changer les filtres parce que lui, en fait, ce capteur, il est pas capable de dire en temps réel s'il y a du microplastique ou pas dans l'océan. Donc, je dois changer ces filtres. Ces filtres qui piègent finalement différentes tailles de microplastique. Il y a différentes tailles de tamis et donc différentes tailles de filtres qui piègent différentes tailles de microplastique. Et donc, à l'arrivée de la course, j'aurai ma valise avec 80 jours si j'ai très très bien navigué ou 85 si j'ai un petit peu moins bien navigué, 85 filtres qui seront remis à la communauté scientifique, aux différents scientifiques, qui ensuite les emmèneront dans leur laboratoire pour les analyser.
D'accord. Et vous sensibilisez aussi, hein, dans cette aventure, les jeunes avec un projet pédagogique, Cétacé l'océan boit l'eau, donc destiné aux élèves de CM1 à la 5e. C'est-à-dire concrètement, comment ça va se matérialiser tout ça?
Alors je me permets une petite correction, c'est Cétacé l'océan boit la tasse, mais c'est pratiquement, pratiquement la même chose.
Boit la tasse.
Écoutez, je suis très heureux de parler de ce projet en la présence de Catherine Chabot, puisque figurez-vous que pour le Vendée Globe 2016, je m'étais déjà posé la question de faire un livret pédagogique. Et Catherine, en 98, si je ne dis pas de bêtises, sur son Vendée Globe, a été la première à faire ça. Et Catherine m'avait dit, écoute, moi ce que je te conseille, c'est de faire CM1, CM2, 6e, 5e, parce qu'après ils sont adolescents, c'est plus compliqué, et avant ils sont trop jeunes. Et c'est vraiment Catherine qui m'avait donné envie de faire un livret pédagogique que je n'avais pas fait en 2016 parce que j'avais trop de choses à apprendre pour faire un Vendée Globe et j'avais pas eu le temps. Et donc du coup cette année c'était un peu le pendant naturel finalement de cet engagement océanographique avec toute cette communauté scientifique qui me suit. L'ancien journaliste que je suis est très fier d'aller sur ces routes où les scientifiques vont peu pour amener des données et des éléments de connaissance sur nos océans. Et après il y a une prise de parole auprès des enfants pour les sensibiliser. Et donc il y a un livret de 60 pages qui est sorti qui s'appelle donc Cétacé l'océan boit la tasse, qui est à disposition des enseignants gratuitement, donc ils peuvent on en a déjà 60 000 qui ont été envoyés aux différentes écoles. Et l'idée, c'est que les enfants puissent suivre le Vendée Globe au prisme de la préservation des océans. Il y aura aussi des news pendant la course destinées aux enfants de la tranche d'âge concernée. Et tous les vendredis, avec les enseignants, les enfants pourront se connecter. Il y aura un live en direct du bateau. Et les enfants qui m'auront envoyé des questions pendant la semaine, j'essaierai de répondre au maximum de questions possibles.
Catherine Chabot, le Vendée Globe est un porte-voix en ce domaine, justement, la défense de l'océan, les enjeux planétaires.
Oui, enfin, c'est pas l'objectif que les créateurs de cette course ont eu, mais ont vu une telle expérience qui est tellement puissante que, avec la mer, comme l'a rappelé Fabrice au début, on a la chance d'être très médiatisé, donc c'est bien pour les partenaires des bateaux, mais c'est aussi bien pour délivrer un message. Comme ce que Fabrice souhaite faire pendant ce Vendée Globe. Aujourd'hui, en plus, on est facilement connecté. Et en plus, on est le marin est observateur, il est témoin de l'état de l'océan. Il a aussi ce recul du large qui lui permet d'avoir un regard plus neuf ou plus global. Et puis, comme le dit, il n'a pas suffisamment insisté, Fabrice. C'est vrai que les marins, le fait qu'il embarque des capteurs océanographiques, c'est très précieux pour les scientifiques qui ne peuvent pas aller dans ces eaux-là. Et puis après, c'est amusant quand même d'observer, Aurélie, de voir que Isabelle Autissier, Hélène MacArthur et moi, qui avons toutes les trois couru le Vendée Globe, on est toutes les trois engagées dans l'environnement de manière différente. Hélène MacArthur avec sa fondation pour l'économie circulaire, Isabelle aujourd'hui avec la présidence du WWF, et puis moi pour l'océan depuis 18 ans maintenant, aujourd'hui au Parlement européen. Et je pense qu'on acquiert une sensibilité, peut-être aussi que... on a envie de transformer tout ce qu'on a appris de la mer. Moi, j'ai appris, notamment de la mer, j'ai appris tellement de choses, des leçons qui me servent encore aujourd'hui. Notamment qu'il ne faut pas lutter contre l'océan, mais composer avec. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, moi, je me révolte quand on veut, après une tempête, on va avoir des phénomènes météorologiques extrêmes bien plus nombreux avec le réchauffement climatique. Eh bien, quand on a des tempêtes qui vont balayer, ou quand on sait que le niveau de la mer va monter, à certains endroits, il faudra accepter que la mer envahisse le littoral. Et donc, reculer, il faut pas imaginer qu'on sera plus fort, c'est pas vrai. Donc, voilà, c'est une expérience qui est riche et qui donne envie de partager beaucoup de choses.
En tout cas, on comprend effectivement qu'il y a toutes ces atteintes graves qui touchent l'océan. Alors, on n'a pas parlé, mais il y a la surpêche, donc fonte des glaciers aussi, montée du niveau de l'océan. Fabrice Amédéo parlait de la pollution plastique. On peut donner quelques chiffres. Plus de 8 millions de tonnes sont déversées chaque année dans la mer, mais on estime que ce sont 150 millions de tonnes de plastique qui sont présentes dans les océans et la plupart au fond. Et 80% de ces déchets viennent des continents. Alors je vous propose d'écouter un document sonore, un reportage diffusé sur France 3 le 25 septembre 2019. Tout simplement pour bien comprendre que cet océan stocke 37 000 milliards de tonnes de carbone quand l'atmosphère en stocke 800 milliards. Mais il fait face à une acidification et à un réchauffement.
Dans cet estuaire du sud de la Bretagne, où le tourisme côtoie l'ostréiculture, lui a choisi les huîtres. Frédéric Nicolazo en vit depuis 40 ans, mais à l'heure où il transmet son entreprise à ses enfants, il s'inquiète de voir que les coquillages ont de plus en plus de mal à se développer.
Avant, pour vendre une huître de 80 grammes, 75-80 grammes, en 3 ans, c'était jouable. Maintenant, de plus en plus, il faut 4 ans, voire 5 ans. On est obligé de les garder en gros une année de plus pour faire le même travail.
Dans son laboratoire, Fabrice Pernet essaye de percer le mystère.
On a des larves d'huîtres qui sont exposées à 15 niveaux de pH différents, qui représentent des scénarios de changement climatique donc différents.
Des bacs avec des chiffres pour indiquer l'acidité de l'eau. Le pH des océans est normalement de 8,1. D'ici 2100, il pourrait tomber à 7,6. Un scénario qui, s'il se vérifie, aura un impact majeur sur les huîtres.
Déjà, les coquilles sont de plus en plus petites à mesure qu'on augmente l'acidité de l'eau. Et elles sont aussi de plus en plus blanches. Au point de devenir, dès lors que le pH est de 6,5, extrêmement corrodées. Elles ont même perdu du poids. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent même plus à compenser les effets de la corrosion. Elles n'arrivent même plus à grandir.
L'acidité de l'eau perturbe aussi la reproduction des poissons. De quoi inquiéter toute une filière économique. Pêcheurs et ostréiculteurs devront s'adapter à des océans chaque jour plus fragiles.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Catherine Chabot, on a entendu bien sûr les mots hein, adaptation, modification des écosystèmes. On sent que cet océan arrive à saturation. Et des chercheurs comme le Canadien Stéphane Lalonde dit qu'il faudrait réduire nos émissions de CO2 de 75% pour éviter d'aller plus loin, en tout cas dans les méfaits. Vous avez peut-être une réaction par rapport à ça. Parviendrons-nous à nous adapter aussi face à ces évolutions?
À s'adapter, l'être humain, je pense que c'est... Oui, forcément, il va falloir s'adapter. Mais je pense que l'enjeu aujourd'hui est quand même... Regardons comment on a évolué. On est tous... L'objectif que l'Union européenne s'est donné, c'est la neutralité carbone en 2050. Par un point de passage que l'on est en train de négocier en ce moment entre le Parlement européen, la Commission et les États membres, et le Parlement a voté pour un point de passage en 2030 de 60% des réductions des émissions par rapport à 90. Donc on voit bien que le chemin est en route. On travaille en ce moment, moi je travaille sur différents textes. On a voté au mois de septembre un texte sur les émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. On voit bien que toute la machine que le monde se bouge. Alors c'est sûr que quand on voit des États qui se détournent de l'accord de Paris, ça fait peur, et qu'on a d'autant plus nous à nous engager. Et je pense qu'il faut arrêter de choisir entre la réduction de nos émissions, entre l'écologie et le développement. On ne se développera pas. Le bien-être humain, il ne passera pas dans un monde complètement pollué. Vous savez, je travaille aussi dans une commission, la commission développement, qui s'occupe des relations de l'Union européenne avec les pays en développement. Et j'ai fait un déplacement juste avant le Covid en Guinée-Bissau. On a rencontré des pêcheurs artisanaux. Leur port de pêche est complètement jonché de plastique. Alors, est-ce que ces populations qui ont besoin de se nourrir vont pouvoir continuer à vivre si on ne s'intéresse pas aussi à réduire les impacts de la terre sur le littoral, sur l'océan, etc. Je crois que on a besoin de vivre dans un environnement sain. On a besoin de protéger la mangrove aussi, par exemple. On parlait d'acidification, un des très gros impacts aujourd'hui du changement climatique, mais aussi des activités humaines. C'est un des puits de carbone, ce qu'on appelle le blue carbone, les plus essentiels de la planète. Les mangroves sont complètement détruites à la fois par les habitats, les activités humaines, et aussi par les pollutions, alors que ce sont dans ces mangroves aussi que se reproduisent les poissons qui vont nourrir les populations locales.
Donc c'est aussi préserver cette biodiversité en créant des aires marines,
voilà,
notamment.
En fait, c'est un sujet qui est global. Il faut arrêter, il faut pas se dire « je vais m'occuper uniquement de la réduction des émissions de CO2 ». Il faut à la fois s'occuper de la réduction des émissions de CO2 à terre principalement, parce qu'elles sont surtout là les émissions, mais aussi celles du transport maritime. Dans le même temps, il faut restaurer les écosystèmes. Il ne faut pas s'occuper que des déchets, mais aussi ce qu'on appelle les pollutions diffuses, qui passent, c'est les pollutions qui ruissellent à la fois des terres agricoles, qui sortent de nos stations d'épuration qui ne traitent pas tout, etc. etc. Donc il y a une problématique globale, et ce qui est absolument essentiel, c'est de comprendre qu'on a tous notre part à faire. C'est tout l'enjeu de cet appel que nous avons lancé pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun à l'humanité, parce qu'en fin de compte, on dit les océans. La réalité, Aurélie, c'est qu'il n'y a qu'un seul océan, qu'on est tous connectés autour de cet océan, qui est à la fois l'avenir de la planète et en même temps terriblement impacté. Moi, je crois que les solutions sont possibles, je suis une femme optimiste et je pense qu'on peut régénérer l'océan, mais à la condition que du citoyen au chef d'État, on comprenne qu'on a tous une responsabilité individuelle et aussi collective, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que j'habite au bord de la mer, mais aussi que si j'habite au sommet de la montagne, je peux avoir un impact sur l'océan. C'est cette prise de conscience de la globalisation de la problématique.
Alors justement, Catherine Chabot, la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique a clôturé sa 39e réunion annuelle dimanche sans protéger cette zone. Je sais que c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur. Les États passent encore à côté de l'urgence ?
Alors ça, c'est un gros sujet. C'est toute la problématique qu'on va connaître dans les années qui viennent. C'est-à-dire que là, concrètement, on a une commission, il y a 26 États membres, dont 8 pays de l'Union européenne, et l'Union européenne elle-même est membre. Et puis, vous avez la Russie et la Chine, qui s'opposent depuis 7 ou 8 réunions, systématiquement, alors qu'il faut l'unanimité pour avoir la création d'aires marines protégées. On veut créer, et la France fait partie des États qui ont proposé, avec l'Australie, la Norvège, l'Allemagne, de vastes aires marines protégées dans une zone qui est donc l'océan autour du continent antarctique, où, bah devinez quoi, on pêche là-bas, et on pêche notamment du krill. C'est ces petites crevettes qui, à la fois, nourrissent, dont se délectent les manchots, mais aussi les cétacés. Et il y a une pression donc de pêche, il y a une pression de plus en plus touristique aussi. Et voilà, donc on peine. Ils sont encore sortis apparemment sans réussir.
Accord. Oui.
Sans accord. Alors on a, moi j'ai mobilisé par une femme formidable, une ancienne députée européenne, Gesine Meissner. J'ai lancé une initiative pour que nous votions une résolution. Ça n'a pas pu être le cas. Donc nous avons écrit une lettre et j'ai 85 collègues de tous bords qui ont co-signé cette lettre adressée à la Commission et aux États membres en leur disant mais avancez. Et c'est la première fois que le Parlement européen s'exprime sur l'Antarctique. Et c'est pas anodin l'Antarctique, ça a beau être loin de chez nous,
c'est un enjeu.
L'océan est un.
C'est un enjeu pour l'évolution de et les conséquences justement sur la planète, comme vous le disiez, Catherine Chabot. Fabrice Amédéo, le bonheur du large, de la Grande Bleue, où il existe encore des petits paradis, ça vous touche, hein. C'est sûr que vous, il y a des zones que vous aimeriez protéger, même si elles se protègent toutes seules finalement. C'est ce qu'on comprend dans votre livre. Tahiti, votre paradis, où l'homme s'est adapté à la nature et ne lui a pas imposé ses diktats, hein, c'est ce que vous nous expliquez. Un point commun d'ailleurs avec Charles Berling qui sera avec nous dans la seconde partie d'émission. Donc Fabrice Amédéo, une petite réaction peut-être sur justement ces questions-là de préservation et puis de difficulté de faire passer aussi ça au niveau des États.
Oui, c'est vrai que moi j'ai envie de partager l'optimisme de Catherine parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Mais c'est vrai que on voit bien que la menace est globale, que la réponse doit être globale, et on a du mal à mettre en place cette réponse globale au niveau des États. Et donc il y a bien évidemment en moi une beaucoup d'inquiétude aujourd'hui pour l'avenir de notre planète, de notre océan et pour nos enfants. Et ça rejoint mon parcours sur les océans où j'ai envie de faire un Vendée Globe qui soit le plus beau possible et de porter cette voix pour l'océan, pour essayer d'apporter ma modeste pierre à l'édifice de tout ce qu'il faudrait faire. Parce que la planète en a vraiment besoin.
Et vous serez un témoin privilégié, on n'en doute pas, hein, Fabrice Amédéo. On va vous laisser tranquille, profiter de votre soirée aussi en famille et finir de vous préparer pour ce deuxième Vendée Globe. Merci à vous, vraiment, d'avoir participé à cette émission en direct.
Merci à vous.
Et puis bien sûr l'appel du large plus fort que tout, on l'aura compris, dans cette quête de reconnexion au monde. On vous souhaite le meilleur pour ce deuxième Vendée Globe et puis rendez-vous pris, pourquoi pas, avec vous dès votre retour. On vous laissera quand même le temps de la reconnexion avec la Terre. Mais vraiment le meilleur de ce Vendée Globe, on vous le souhaite.
Merci beaucoup.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on la rime au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes, comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Du sable de la terre. Rappelle-toi le chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette barre des chevaux rats, au ras des rocs qui se consument, au l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus.
C'était La mémoire et la mer, chanson de Léo Ferré, choix de Charles Berling, qui nous rejoindra dans un instant. Mais cette chanson interprétée ici par Bernard Lavillier. Et c'est la suite de notre magazine de l'environnement de Cause à effet sur France Culture, en direct, consacré ce soir à l'océan, à l'occasion du Vendée Globe 2020 qui partira dimanche des Sables d'Olonne, dans un contexte où l'océan est reconnu comme étant l'avenir de la Terre et un enjeu géostratégique du 21e siècle. Vit-on une course contre la montre pour la sauvegarde de l'océan? Avec nous toujours Catherine Chabot, navigatrice, journaliste et députée européenne. Je le rappelle, première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire sans escale, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, ancienne déléguée de la mer et au littoral de 2016 à 2017. Et donc, elle sera rejointe dans quelques minutes par l'acteur et metteur en scène Charles Berling, directeur du théâtre Liberté à Toulon, pour sa théma passion bleu. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages planète du journal Le Monde, dans l'actualité qui touche à l'environnement, coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Bonsoir Stéphane Foucard.
Bonsoir.
Vous êtes notre œil du monde planète ce soir et votre choix s'est porté sur une étude récente qui analyse la contamination des sols et des vers de terre par des pesticides.
Oui, alors ce qui est nouveau avec ces travaux de chercheurs français, hein, qui ont été coordonnés par une écologue de l'INRA, Céline Pelosi, et qui ont été publiés fin septembre, assez discrètement d'ailleurs, c'est que ces recherches de pesticides ont été conduites dans les sols sur un large territoire, hein, c'est une grande plaine céréalière de 450 km² du sud-ouest de la France, hein, dans les Deux-Sèvres, et que cette recherche n'a pas concerné uniquement les parcelles cultivées, mais aussi ce que les chercheurs appellent l'habitat semi-naturel, hein, c'est-à-dire les haies, les bosquets, les marges des champs, c'est-à-dire des zones qui ne reçoivent pas de traitement de pesticides. Or, et c'est assez surprenant, et les chercheurs eux-mêmes d'ailleurs le notent dans leur papier, de telles données de contamination dans ces milieux sont très rares, voire même carrément inexistantes. On s'est beaucoup intéressé à la contamination des eaux, hein, par les pesticides, hein, puisqu'on boit l'eau, donc forcément on s'y intéresse. Depuis peu, on s'intéresse aussi à leur présence dans l'air. Il y a tout un réseau de surveillance des pesticides dans l'air dont les données sont analysées depuis quelques années, quelques mois par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Mais les sols sont un petit peu les parents pauvres de la recherche sur ce sujet.
Mais alors que trouve-t-on dans cette étude concrètement?
Alors, les chercheurs ont recherché 31 molécules pesticides, hein, dont je vous fais grâce des noms, qui sont la plupart du temps imprononçables, dont la plupart, 29, sont actuellement autorisées et 2 sont interdites. Et ce qu'ils trouvent, c'est que la presque totalité des sols analysés sont contaminés par plusieurs pesticides, que ce soit des insecticides, des fongicides ou des herbicides, y compris dans ces fameux habitats semi-naturels, ou des prairies, ou des champs cultivés selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Concrètement, on a à peu près 90% des 180 échantillons de sols qui ont été analysés, dans lesquels on trouve au moins un herbicide, un insecticide et un fongicide. Et parmi les substances les plus fréquemment retrouvées, on trouve alors quelque chose qui s'appelle le boscalide. C'est un fongicide de la famille des SDHI, qui sont des substances qui sont au centre d'une forte controverse depuis quelques années en France. On trouve un herbicide, le difluphénican, et un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, un des célèbres néonicotinoïdes, l'imidacloprid. Alors, à noter que le glyphosate n'a pas été recherché par les auteurs pour des raisons techniques, puisqu'il nécessite des méthodes d'analyse très pointues. Il faut noter aussi que l'imidacloprid, qui est interdit en France depuis 2018, vient d'être réautorisé par les parlementaires, puisqu'il a été, accordé à ce produit une dérogation d'usage pour la betterave à sucre jusqu'en 2023, et vous en avez parlé récemment dans une précédente émission.
Et alors, est-ce qu'il y a d'autres surprises dans cette étude ?
Oui, il y a une grosse surprise, qui est aussi une mauvaise surprise, malheureusement. Parce que les chercheurs se sont pas limités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'analyse des sols. Ils ont aussi prélevé dans chaque échantillon de sol prélevé des vers de terre, dont on sait à quel point ils sont nécessaires à la santé et à la fertilité des sols, précisément. Et ils ont cherché les mêmes résidus de pesticides. Et ils se sont rendus compte que l'imidacloprid, donc ce fameux néonicotinoïde, bien s'accumule dans ces animaux à des taux que l'un des auteurs de ces travaux qualifie de faramineux. On sait que les chercheurs ont souvent une façon très pudique d'aborder leurs travaux, quel que soit le caractère frappant de leur découverte. Là, voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné les auteurs de ce papier. Les niveaux sont très très élevés. Alors concrètement, ça veut dire qu'on retrouve de l'imidacloprid dans environ 80% des vers de terre qui ont été prélevés dans cette zone. Et dans 43% des cas, on en trouve plus de 100 parties par milliard. C'est une donnée de concentration qu'on appelle le PPB, parties per billion en anglais, PPB. Et dans 10% des cas, on en retrouve plus de 500 PPB. Le maximum pointe à près de 800 PPB. Donc c'est très important.
Oui, mais alors pourquoi est-ce que c'est si surprenant ?
Eh bien, c'est surprenant parce que quand les agences réglementaires ont autorisé l'imidacloprid, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant, eh bien, elles l'ont considéré comme à faible risque de bioaccumulation. La bioaccumulation, c'est un phénomène, c'est un processus par lequel un polluant, au lieu de se dissoudre comme ça dans l'environnement jusqu'à devenir complètement inoffensif, eh bien, il se concentre dans certains animaux. Et une fois qu'il est concentré dans ces organismes, eh bien, il a un potentiel de contamination de l'ensemble de la chaîne alimentaire, de tous les étages supérieurs de la chaîne alimentaire. Là, on voit clairement qu'il y a ce phénomène de bioaccumulation qui est complètement inattendu. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, lorsqu'un colza est traité avec de l'imidacloprid, eh bien on retrouve en moyenne environ 2 parties par million, 2 ppb du produit dans le nectar. Là, on en retrouve donc jusqu'à 400 fois plus dans les vers de terre qui ont été prélevés dans cette grande plaine céréalière, ce qui est véritablement une concentration alarmante, dont les chercheurs estiment qu'elle a certainement donc un effet sur le reste de l'écosystème, en particulier sur les animaux qui consomment ces vers de terre, les micro-mammifères, les musaraignes, les petits rongeurs et également les oiseaux.
Oui, donc sur cette chaîne alimentaire. Merci Stéphane Foucard.
Merci
à vous, et bien sûr cette étude, on va la suivre, et toutes les informations sur le sujet, sur votre article, sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'est toujours ce même Elliot. Il avait un hameçon dans la bouche. Il est venu plusieurs fois vers mes camarades qui étaient dans l'eau, vers Hugues Vitry. Gueule ouverte, à toute vitesse. Hugues a fait sortir tout le monde de l'eau, effrayé par cette attitude. Elliot est resté autour du bateau à tourner, gueule ouverte, mais personne n'a compris. Il est retourné dans sa famille. Mes camarades se sont remis à l'eau, une deuxième fois, même troisième fois. Au bout d'une quarantaine de minutes, enfin quelqu'un sur le bateau a vu, mais il a un hameçon dans la bouche. Ce cachalot, Elliot, a mis 40 minutes pour faire comprendre à nous, humains un peu benés, qu'il avait un problème. Et Hugues a enlevé le hameçon, et après, Elliot lui a fait la fête. Mais ce qu'il y a de remarquable là-dedans, c'est que ce cachalot a résolu un problème nouveau en faisant appel à une expérience qu'il avait retenue, et il a fait une hypothèse, il a supporté une douleur immédiate, l'arrachement de l'hameçon, pour un hypothétique mieux futur. Il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont capables de ça. Sinon, nous arrêterions de polluer pour un mieux futur.
Bonsoir Charles Berling.
Bonsoir.
Je ne sais pas si vous avez reconnu la voix de celui qui racontait.
François Sarano qui est venu chez nous le 13 novembre et qui a, qui a raconté des histoires merveilleuses sur les cachalots.
Exactement, océanologue, plongeur, spécialisé cachalot. Wow. Voilà, il était à notre micro le 10 décembre 2017. Et d'ailleurs, dans une émission où Catherine Chabot était déjà là. Et donc, Charles Berling, vous êtes avec nous parce que donc je rappelle, est-ce que on a besoin de le rappeler, mais quand même, vous êtes acteur, réalisateur, metteur en scène notamment, et directeur de la scène nationale Château Vallon Liberté à Toulon. Et donc, depuis septembre, vous avez lancé une programmation de rencontres, spectacles, projections intitulée Passion Bleue, avec des artistes, des scientifiques, des intellectuels, des sportifs. Et vraiment, c'est une très belle programmation. On imagine de grands moments partagés avec le public jusqu'à ce confinement. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé votre choix, au-delà du fait que vous êtes un passionné de la mer et on peut dire un voileux aussi depuis l'enfance?
Oui. Oui, c'est vrai, Catherine Chabot, qui d'ailleurs nous a fait le plaisir et l'honneur de venir 3 jours durant, fait partie de ces gens qui, comme moi, ont fréquenté la mer et ont vu le déclin. Donc, je pense qu'il était important, il est important aujourd'hui que les populations se rendent compte de ce que leur action provoque comme désastre pour la mer et les océans. Donc, nos scènes nationales, nos scènes culturelles sont là aussi, et je pense pour préserver la diversité des choses, pour parler du vivant, pour faire en sorte qu'on dépasse des logiques purement financières, des logiques purement mercantiles ou de profit. Et donc on a voulu à la scène nationale avec toute l'équipe faire une grande thématique, et on va le poursuivre chaque année, pour sensibiliser, disons, les terriens avec le fait que avec la mer. Vous savez, la rade de Toulon, par exemple, c'est un espace tout à fait lisse. Comme le disait Fabrice Amédéo tout à l'heure, et je suis passionné par ces marins qui, comme Catherine et tout, ils racontent très bien à quel point la mer paraît très belle comme ça. Elle a une apparence toute lisse, toute belle. On voit rien de ce qui s'enfouit au fond, de ce qui disparaît dedans. La rade de Toulon en est un bel exemple, puisque dans la rade de Toulon, vous avez peut-être 11 mètres de bateaux, d'épaves, c'est-à-dire que la rade était plus profonde avant et elle l'est moins parce qu'il y a beaucoup de dépôts qui s'est fait. Donc c'est un exemple du fait que les terriens que nous sommes ne se rendent pas compte du désastre qui se répand de plus en plus et de l'urgence qu'il y a. Donc, je pense que la culture doit absolument se mobiliser justement pour être un des leviers qui va permettre aux gens de comprendre que il faut pas accepter la situation telle qu'elle est. On entendait tout à l'heure la chanson magnifique de Léo Ferré. Léo Ferré a fait de la poésie un acte de combat. Et ben, je pense que nous devons combattre pour réveiller les consciences, parce que elles se sont malheureusement singulièrement endormies.
Donc ça veut dire, Charles Berling, regard sur des actions, enfin chacun prend sa part finalement avec ses armes, l'urgence environnementale a plus que jamais sa place sur la scène du théâtre, et donc vous conviez Edgar Morin, Boris Cyrulnik, oui, Laurent Balesta, Marc Tiercelin, des personnes comme ça qui croisent les regards, la parole, et avec cette envie de faire comprendre que chacun finalement, quel qu'il soit, peut jouer un rôle, et on n'est pas forcément obligé de rester dans des niches, c'est ça ?
Oui, pour suivre justement un immense penseur, anthropologue, philosophe qui est Edgar Morin, qui raconte des choses passionnantes sur il faut arrêter de spécialiser les choses et de spécialiser les gens. Donc moi, je crois que la culture est là pour créer des ponts entre tout le monde, pour faire que scientifiques, artistes, il y avait aussi des pêcheurs, il y avait le préfet maritime, je crois que nous sommes là pour faire que les gens se parlent, simplement se parlent. Or, les gens ne se parlent plus parce que chacun est dans sa niche, dans sa spécialité. Et Edgar Morin en parle très bien en disant qu'il faut, retrouver l'universel de la pensée, il faut avoir le culot de se dire qu'on peut tous penser le monde qu'on veut pour demain. Et surtout se donner cette liberté. Et nous, on essaye, disons, de défendre, comme les écologistes défendent à juste titre, et je m'en sens pour ça, la diversité fondamentale du vivant, nous devons défendre à travers la culture, la diversité culturelle, mais ça implique un combat, ça implique que toutes les diversités, disons, la défense de ces diversités se rejoignent et sont liées, complètement imbriquées les unes aux autres. Moi, j'ai commencé ici à Toulon avec la passion de la voile, la passion de la mer et la passion du théâtre, longtemps j'ai cru que c'était deux choses dissociées, et maintenant je suis persuadé que ces deux univers sont profondément liés.
Donc innover, avoir de l'imagination, et ça se passe concrètement sur cette scène nationale Château-Vallon,
oui,
Liberté.
Parce que il faut raconter surtout, évidemment il y a le désastre écologique, et les gens entendent souvent, et à juste titre, des choses très alarmantes. Mais je crois qu'il faut aussi raconter que c'est alarmant parce que on détruit un émerveillement absolu. On détruit quelque... Quand vous écoutez Catherine Chabot, Cyrulnik, Sarano, Françoise Gaille, tous ces gens qui ont parlé et qui racontent le monde, qui racontent la biodiversité, c'est fabuleux. C'est-à-dire, c'est une joie intense. C'est cette joie qu'il ne faut pas perdre. C'est une joie, une liberté. C'est quelque chose que nous devons défendre. Et on a la chance... encore en France et dans certains pays, d'avoir des institutions culturelles comme les nôtres qui permettent cette diversité. Et on parlait, après, il y a eu avec le Covid, moi en plus, je pense qu'avec le Covid, il y a une grande prise de conscience d'un certain nombre de gens, parce que le Covid, c'est pas innocent. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va passer et puis hop, on reprend le monde d'après, comme on disait, on reprend la vie comme avant. Non, il faut se remettre en question. Mais pour ça, il faut savoir se regarder en face, regarder à l'intérieur de soi, se regarder les uns les autres. Et nous-mêmes, d'ailleurs, dans la culture, parce que là, avec la scène nationale, on réfléchit avec d'autres théâtres dans la région sud pour se dire comment on peut faire pour changer nos habitudes, déjà nous.
Donc ça veut dire
les gens ne, vous voyez, parce que nous, sinon, on construit des décors, on a des projets, on dépense beaucoup de choses. Oui. On ne se posait pas cette question. Mais maintenant, je crois qu'il faut être adulte d'une certaine manière, arriver à un âge de maturité, disons, de conscience écologique collective, et se dire on change nos habitudes. Mais changer nos habitudes, comme le disait par exemple très très bien Fabrice Amédéo, quand il dit les gens pensent que je vais sur l'océan et que c'est un vide. Non, changer les habitudes, c'est pour retrouver du plein, c'est pour retrouver de l'âme. Pour moi, je me fais moi-même la critique, c'est-à-dire j'ai une vie d'acteur, j'ai une vie de création, de génial tout ça. Mais finalement, je m'aperçois que on court après quelque chose au bout d'un moment, d'un consumérisme finalement, même de création artistique. Or, il faut retrouver quelque chose qui est plus fondamental, qui est plus essentiel et qui est au fond plus écologique parce que plus économe et plus respectueux de la profonde diversité des choses.
On sent dans vos paroles, Charles Berling, que finalement cette pandémie, le confinement bis, ce sont des périodes qui sont des révélateurs hein, pour vous, pour d'autres, peut-être des temps de réflexion, d'introspection sur nos relations au vivant. Il faut changer de paradigme. Je précise aussi quand même, Charles Berling, que vous êtes engagé ailleurs, par exemple, je pense depuis 2019, dans le collectif The Freaks, lancé par le groupe Chaka Ponk. Donc c'est un engagement aussi au-delà de la scène.
Oui, j'ai toujours une conscience sociale, j'ai toujours pensé que là je travaille sur Hannah Arendt, elle le raconte très bien comment on peut qu'on n'est pas seul au monde. L'être humain est un animal grégaire, n'est-ce pas, et on fait partie d'une société.
Je crois que vous vouliez nous lire son texte d'ailleurs.
Ah oui, si je le retrouve, mais là je
vous l'avez éparpillé dans vos notes.
Comment oui non, il faut que je retrouve le code, mais comment dirais-je, oui, c'est-à-dire elle raconte pourquoi vous voulez aller sur la lune, pourquoi vous commencez par vous occuper de la terre sur laquelle vous êtes et par accepter votre condition humaine au lieu de vous voyez, je trouve qu'aujourd'hui même les technologies qu'on a nous invitent à regarder de belles images, mais finalement à se détourner du rapport à la terre qu'on ne pourra pas éviter.
Catherine Chabot, on aurait pu parler encore dans l'émission. Je vois qu'il nous reste un peu plus de 4 minutes hein, ensemble. On aurait pu parler de la pollution sonore, les décibels. Les chercheurs ont montré que les sources de bruit anthropiques handicapaient, blessaient, tuaient une partie de la faune marine, les hélices de bateaux. On aurait pu parler d'autres nuisances. Vous êtes attaché à une question, plus qu'une question fondamentale, c'est la notion de bien commun. Est-ce que c'est la solution et si elle l'est, comment la mettre en place?
Oui, je me réjouissais d'écouter Charles. Je crois que on a vraiment un challenge qui est colossal devant nous. Et moi, je suis définitivement une femme optimiste Et je me réjouis d'entendre, de voir des artistes qui nous rejoignent, qui nous donnent l'espace. Et merci encore Charles d'avoir laissé offert avec Passion Bleue cet espace pour parler de la mer, parce qu'on a besoin d'entendre toutes les voix. Avec le bien commun, c'est finalement aussi ça qu'on essaie de capter, c'est de faire comprendre que cet océan, en fait, il nous offre des bienfaits à vous, à moi, parce que c'est une respiration sur deux, parce que demain, notre avenir, vous l'avez parfaitement dit et très bien dit, et je dois vous dire, Aurélie, c'est pas toujours que l'océan est présenté dans sa globalité comme vous l'avez fait en début d'émission. Et on a tous la capacité de l'aider à gagner en résilience, parce qu'il est résilient comme l'être humain est résilient. Mais maintenant, il faut qu'on se mette en mouvement. Donc avec le bien commun, on essaie de mobiliser, de conscientiser, c'est pas un très joli mot, mais en tous les cas, de faire comprendre que tout un chacun a une responsabilité individuelle et collective. Moi, c'est le sentiment très fort que j'ai ressenti quand je me suis retrouvée face aux déchets en plein milieu de l'océan. Je me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut tourner la page du temps où on ciblait, on cherchait les responsables. On n'a plus le temps. Il faut se mettre en mouvement. Et donc, avec cette notion-là, d'abord, au niveau international, on voudrait, dans le cadre de la Convention internationale du droit de la mer, ça c'est un objectif politique très important, mettre cette notion de responsabilité au-dessus du concept de la notion de droit souverain que les États ont acquis sur les zones économiques exclusives depuis 82. Mmh. Et au large, au-delà des zones économiques exclusives, la liberté de navigation, l'appropriation, non, responsabilité d'abord, et voilà. Et sensibiliser et motiver tout le monde pour le sauver, cet océan.
Charles Berling, alors voilà. Comment est-ce que vous comptez poursuivre de votre côté cette transversalité, croiser les savoirs, les spécialisations, engager un tous ensemble pour mener à bien cette sauvegarde de l'océan? Est-ce que la programmation pourra reprendre à un moment?
Toujours, nous, on va continuer ce travail. Je pense que de toute façon, le travail sur la diversité elle-même est un travail qui va dans ce sens. Mais donc ça, moi, je suis obsédé par ça. J'ai la chance justement d'être sur un territoire, de retrouver des valeurs de territoire, de retrouver des gens qui nous fréquentent, et après même au-delà, et de faire venir des gens d'ailleurs pour parler. Mais je pense que ça va passer par un travail de fond. Et un travail régulier. Donc c'est pour ça qu'on va continuer avec Passion Bleue, parce que c'est très important. J'ai retrouvé le texte d'Anna Arendt, si vous voulez.
Allez-y, votre dernière minute.
Écoutez ce qu'elle racontait dans les années 50, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire c'est pas nouveau.
Mais rapidement, fait. Charles Berling, vous avez 20 secondes.
L'histoire a émergé comme quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant. Elle devient un processus fait par l'homme. L'action humaine, avec ses processus faits par l'homme, était limitée au monde humain. Dès le moment où nous avons commencé à déclencher des processus naturels de notre cru, nous n'avons pas seulement augmenté notre pouvoir sur la nature, nous ne nous sommes pas seulement devenus agressifs avec la nature, mais pour la première fois, nous avons capté la nature dans le monde humain et effacé les frontières. L'homme moderne en veut à tout ce qui est donné, même à sa propre existence. Il en veut au fait même qu'il n'est pas son propre créateur, ni celui de l'univers. L'humanité en est venue à considérer la Terre comme prison du corps.
Et on doit justement rendre l'antenne. Merci Charles Berling pour
merci
ce
beaucoup.
Beau texte. Merci Catherine Chabot. Et bien
merci
sûr,
merci
les beaucoup. Liens et merci, toutes les informations vous concernant, bien sûr, sont à retrouver sur le site de l'émission via franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute. Et je vous précise juste que mardi prochain, nous serons en compagnie de Laurent Fabius et de la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Restez à l'écoute dans un instant. Suite de vos programmes sur France Culture. Bonne soirée à tous.